Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Notre invitée de la semaine, Anne Hébert, pour le roman qu'elle vient de publier aux éditions du Seuil, Les Fous de Bassan. Anne Hébert, je ne vais pas dire qu'il y a bien longtemps que nous sommes rencontrés, ça ne serait pas très aimable, ni très galant, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'années, nous nous sommes rencontrés pour la première fois, et c'était avant tout le poète Anne Hébert que nous voulions évoquer, car on oublie peut-être parfois, avec le succès de la romancière, la place du poète que vous êtes. Et c'est ainsi aussi que à certains publics et pour des critiques, vous êtes révélé en France. Évidemment, en 1971, le succès de Kamouraska, qui a obtenu le prix des libraires, qui a été réédité depuis du reste en collection de poche, au Seuil, a peut-être effacé cette renommée de la poétesse. Mais vous êtes toujours resté poète et on s'en aperçoit dans vos romans. Est-ce que la poésie continue d'occuper une grande place dans votre travail même?
C'est-à-dire que pour moi, la poésie est toujours aussi importante, mais j'espère qu'elle passe dans la prose. Parce que je ne fais pas des poèmes sous forme de poèmes. Mais pour moi, la poésie, c'est une chose choisie depuis très longtemps, c'est une chose aimée depuis très longtemps et qui fait partie de moi-même. Et même si j'écris un roman, j'espère que la poésie passe aussi.
Soyez tranquille de ce point de vue-là. Evelyne Chamerger, vous voulez intervenir là? Vous avez vu lever le doigt, je ne sais pas
non,
si c'était...
Non, c'était une question de micro. Je me demandais si Anne Hébert était suffisamment près du moment. Mais non, je pense comme elle que, en tous les cas, dans ce livre, on se rend bien compte que la poésie règne d'un bout à l'autre du livre.
Oui, à la fois par le décor et surtout par le traitement du livre. Parce que ce n'est pas un ouvrage qu'il est si facile de présenter ou de résumer, étant donné la structure même romanesque que vous avez choisie. Vous avez dû tout de même penser, malgré vous, enfin consciemment ou inconsciemment, qu'on évoquerait un certain livre de Faulkner à propos de ce roman, non? Oui ou non?
À cause du personnage. Oui, c'est très difficile.
À cause
difficile,
de la petite citation de Shakespeare.
Oui, c'est très difficile de faire parler un enfant innocent, un enfant attardé, sans traîner derrière soi tout le sillage de Faulkner. Ça, je m'en rends bien compte. Mais j'avais envie de le faire comme ça et je le sentais comme ça. Alors, je l'ai fait quand même, en dépit de Faulkner. Mais c'est sûr que c'est un peu dérangeant pour...
Et du reste, il y a un autre rapport avec Faulkner, mais qui n'est pas du tout, je m'empresse de le dire, du point de vue du style. Mais c'est un rapport, je dirais, presque moral. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a une sorte de puritanisme exacerbé ou révolté qui est un peu dans tout le livre.
C'est-à-dire que ça se passe dans un milieu très puritain, un milieu protestant, un milieu très, très fermé. C'est une sorte de ghetto. C'est une centaine de personnes qui vivent dans un petit village à l'écart de tout, qui sont repliés sur eux-mêmes, qui ont leurs propres lois de morale très, très rigides. Ils s'appuient davantage probablement sur ces lois-là parce qu'ils ont moins de rapport avec le monde alentour. Je crois que c'est un milieu protestant.
Et puis, Jean Berger va nous planter le décor.
Eh bien, le décor, Anne Hébert l'a planté. Oui. Le rôle de la mère est primordial. Elle est là constamment et une mère assez dure, une mère venteuse et froide, mais une mère avec laquelle les habitants de ce village entretiennent des rapports extrêmement intimes, puisque l'une des plus belles scènes du livre, à mon avis, est celle où l'on voit une mère de famille, sa tâche accomplie, fatiguée, se glisser hors de son lit aux toutes petites heures de l'aube pour aller se baigner, pour aller se rouler dans cette mer qui est froide et qui l'encercle de ce froid. Et on a l'impression là d'une sorte de rite, on a l'impression que cette femme, ce faisant, retourne à ses sources, aux sources marines, devient elle-même une sorte de divinité marine. Et sa petite-fille la suit, et sa petite-fille voudrait participer au mythe. Alors ça, c'est un exemple que je cite, mais il en est d'autres. Cette mère, les différents personnages du livre, qui, chacun à son tour, nous donneront un aspect de ce qui se passe, car en fait ce livre est écrit et vu et vécu par cinq personnes complètement différentes. Et chacune de ces personnes aura à faire avec la mer, avec le large, avec les oiseaux cruels, ces fous de bassin qui piaillent partout. Mais moi, je voudrais insister sur une des personnes qui domine l'œuvre et qui est une personne extrêmement complexe et très dure, presque cruelle. C'est le révérend, c'est le pasteur. Ce pasteur,
c'est Nicolas.
Nicolas, qui profère les paroles de l'Évangile, qui est d'ailleurs un pasteur plus ou moins en bout de course, abandonné de ses ouailles dans une église qui tombe un peu en ruine.
Un temple
qui tombe un peu en ruine. Et cet homme, nous découvrons peu à peu que sa vie est extrêmement trouble. Il a pour servante deux pauvres filles, des jumelles qu'il torture, à vrai dire, qu'il fait descendre à 5 heures du matin pour ramasser un cheveu qu'il a découvert par terre. Et il aime toucher les petites filles à l'heure où elles deviennent des adolescentes. Ce personnage est un peu...
Comme vous y allez, comme ça.
Ce personnage est un peu satanique, je trouve.
Anne Hébert,
ce n'est pas uniquement le porteur de la parole.
C'est vrai que c'est un des personnages principaux.
C'est un des personnages principaux, mais je ne trouve pas qu'il est satanique du tout.
Oui.
Je trouve qu'il est très tourmenté, qu'il est très malheureux aussi, mais il est aussi touchant. Moi, je le sens comme un personnage touchant. C'est quelqu'un qui est lancé dans la vie, qui est plein de vie tumultueuse, etc., et qui est ligoté, absolument ligoté par son milieu, qui a épousé une femme qu'il n'aime pas, une femme qui
est stérile,
une femme insensible, en apparence insensible, froide comme un poisson. Alors, c'est pas très intéressant d'avoir épousé un poisson. Alors, le pauvre, il essaye de trouver la vie ailleurs, et la vie, elle se présente à ses yeux sous la forme de deux adolescentes qui sont très belles et à un âge où elles sont encore enfants et deviennent femmes, un âge qui le trouble profondément. Mais il est aussi très religieux et pour lui, il a vraiment accepté d'être appelé par Dieu et d'avoir une mission. Et cette mission, il veut la suivre jusqu'au bout, en dépit de tout ce qui est contraire dans la vie. Tout lui est contraire, mais il veut quand même être fidèle à l'appel de Dieu. Et ça, jusqu'à la fin, quand l'église se désagrège, quand le temple se désagrège, quand la campagne alentour reprend les maisons, la forêt reprend les planches de bois des maisons. Et lui veut quand même qu'il y ait encore un lien de Dieu aux gens de Griffin Creek. Et c'est lui qui est ce lien, ce vieux lien tout cassé, tout abîmé, mais qui existe quand même parce qu'il est fidèle à l'appel qui lui a été fait un jour.
On a l'impression, d'autre part, que ce personnage, mais d'autres aussi dans le livre, sont quand même devant quelque chose d'un peu vertigineux, qui est leur propre instinct, au fond. C'est leur pulsion qu'ils n'arrivent pas à dominer, sur laquelle ils sentent que c'est une chose qui les guide vers, je ne sais pas si on peut appeler ça un enfer, puisque vous parlez de Dieu à propos de ce personnage, mais en tout cas vers quelque chose d'extrêmement dangereux.
C'est-à-dire que c'est des gens qui sont si près de la nature, si près de la mer, si près des oiseaux, si près de la forêt aussi, qui est derrière, il y a la mer, il y a la forêt, il y a cette petite enclave où il y a des gens qui vivent, que leurs pulsions sont très très fortes, très très sauvages. Alors ce qu'ils essaient de s'imposer de civilisation, de retenue, n'a presque pas de prix sur eux. Ils sont vraiment très primitifs et très dominés par la nature. Plus que dominés, ils en font partie. Ils subissent le ressac de la mer et l'approche de la forêt constamment.
Oui, c'est ce que soulignait Evelyne Chamberger, c'est ce qu'il y a de passionnant dans cet ouvrage et que vous avez très bien su doser à des vers comme on dose exactement des nuances dans un tableau, c'est que nous avons affaire effectivement à une communauté humaine marquée par un puritanisme, mais en même temps marquée par, non pas un naturisme, mais par la présence de la nature, donc d'un certain paganisme, finalement.
Et un sensualisme.
Et un sensualisme, voilà des moralismes.
Oui.
Et dans cet univers, il y a la présence de Nicolas, c'est le pasteur. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, si j'ose dire, en ce sens que ce n'est pas un homme, comment dirais-je, un peu inquiétant. Si, tout le monde est inquiétant, finalement.
Oui.
Mais c'est un homme pour qui le mal existe, tout simplement. Parce que c'est un croyant. C'est un homme croyant. C'est pas un hasard, finalement, si vous êtes notre invité aujourd'hui, et si dans le dossier, on va parler de Bernanos et de Sous le soleil de Satan. Mais à la limite, c'est la même chose. Dans Sous le soleil de Satan, on rencontre l'homme et le mal. Eh bien, Nicolas, il sait que le mal existe et il sait que le mal est en lui. Évidemment, on pourrait lui dire, après tout, il se fait des idées selon sa foi, et à cause de sa foi, après tout, il a qu'à aller avec ses petites adolescentes s'amuser dans la grève,
ça,
et puis ça sera
drame,
fini.
Ça serait pas un drame.
Bon, mais lui, c'est un drame. Tout de même. C'est un drame. Et puis, il y a les deux adolescentes qui traversent cet univers qui sont en quelque sorte le symbole de, je ne sais pas moi, de la beauté qui n'est pas encore accomplie, de la promesse de beauté, donc de la promesse de bonheur. Mmh. Et puis, il y a Steven, c'est-à-dire, il y a tout de même ce garçon très inquiétant dont nous n'avons pas encore parlé. Est-ce qu'il faut dire ce qui se révélera à la fin? Parce que je dois dire, dès que j'ai commencé le roman, qui se présente à la limite comme un roman, non pas policier, mais qui recèle un mystère sur un crime, sur des morts tragiques qui ont eu lieu, j'ai tout de suite pensé que le pasteur était plus ou moins suspect. Quand j'ai commencé votre roman. Bon, et puis, bon, on avance petit à petit. J'ai pas le nez d'un fin limier. On avance de plus en plus dans votre livre, justement avec sa construction, avec différentes parties, différents points de vue sur l'action. Mais j'aimerais que vous nous parliez de ce personnage de Steven, c'est-à-dire de cet homme qui est tout de même assez inquiétant lui aussi.
Oui, vous parliez du côté, si on peut dire, policier. Oui. Mais tout le monde est suspect. Oui. Parce que c'est un roman qui est fait sur le désir, et tout le monde désire. Alors, un désir poussé jusqu'à l'absurde, un désir absolument exacerbé qui débouche sur la mort. Alors, ça aurait pu être le pasteur, ça aurait pu être Perceval, ça aurait pu être Stevens.
Ouais.
Oui. Mais Stevens est un personnage qui a quitté, lui, le village, qui a déjà quitté Griffin Creek, qui était très malheureux chez ses parents, qui avait un père et une mère qui ne l'aimaient pas, et qui est parti et qui a vécu 5 ans en Floride, et qui revient dans son village natal, riche de toute l'expérience qu'il a eue d'ailleurs, l'expérience de la route, parce que c'est quand même très loin, partir de Québec pour aller en Floride, c'est quand même presque traverser l'Amérique. Alors, il arrive avec toute cette expérience-là, et il arrive aussi avec une idée de s'affirmer comme étant tout à fait dégagé de son village, tout à fait dégagé de ce monde qu'il n'accepte plus, mais qui le fascine encore puisqu'il y revient et qu'il se promène un peu partout et qu'il découvre les changements qui sont passés depuis son absence, qu'il découvre ses deux cousines. Et parmi une des deux cousines, Nora, est très, très aguichante, très attirée par Stevens, et lui ne peut pas la supporter à cause de ça. Et l'autre, qui est beaucoup plus réservée, beaucoup plus discrète, et que Stevens, en secret, aime bien, mais aime. Il est très ligoté dans sa façon d'aimer. C'est quelqu'un qui ne peut pas aimer, surtout pas les femmes. C'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes. C'est quelqu'un qui est plein de haine, parce qu'il a subi lui-même la haine quand il était enfant. Et il n'aime pas les femmes, il n'aime pas l'amour, il méprise les femmes et l'amour.
Bernard Pivot.
Je vais poser une question à Hébert. Oui. Considérez que vous avez introduit de la métaphysique dans le roman policier ou vous avez introduit du haut policier dans la métaphysique?
Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait.
Un roman.
J'ai essayé de faire un roman, voilà.
Non, mais...
Mais du reste, alors, je dis un petit mot, mais on parlait de roman policier. Mais ce qui est curieux, là, c'est qu'en fait, je trouve que personne n'a pas de culpabilité. Je veux dire, ce sont eux-mêmes qui se créent leur culpabilité. Mais on a l'impression que la romancière, elle, d'une certaine façon, donne...
l'absolution à
tout
le monde.
Oui, il y a une sorte d'innocence chez tous les personnages.
Oui, moi, je crois qu'ils sont tous innocents. Je crois qu'ils sont tous innocents et que c'est le drame de l'innocence accusée, de l'innocence culpabilisée.
Alors, maintenant, pour terminer, Anne Hébert, parce qu'on n'en aurait pas fini avec ce roman, on a à peu près mis en place les personnages, le pasteur, les deux adolescentes. Évidemment, on a laissé un peu de côté Stevens, on a laissé un peu de côté Perceval. Perceval, c'est tout de même très intéressant. Parce que, lui aussi, une voix du cœur, parce que finalement, ce livre est construit comme un cœur parlé, n'est-ce pas? Et on donne la parole, tantôt à une voix, tantôt à une autre voix, tantôt à une autre voix. Et par la rencontre de ces différentes voix, petit à petit, le lecteur progresse dans le mystère de la tragédie qui s'est déroulée au cours de ce roman. Bien. Eh bien, Perceval fait partie de ce cœur. Et alors là, allusion à Faulkner, allusion à la métaphysique, au roman policier cher à Bernard Pivot. Eh bien, Perceval, comment et pourquoi avez-vous pensé à la présence d'un innocent dans ces coupables innocents eux-mêmes? C'est-à-dire que vous innocentez, vous. Tandis que Perceval, il est vraiment innocent.
Oui, à tous les sens du mot, c'est-à-dire...
Oui, on a compris.
Pardon.
Allez,
ben. Oui, je crois que Perceval est le plus innocent de tous. Il est vraiment celui qui, à qui tout échappe, qui voit oui. tout, qui
et
sent tout.
Et pourquoi vous avez voulu le mettre? Parce que c'est vous tout de même qui l'avez mis.
Oui, c'est moi. J'ai même voulu faire tout le roman. Tout d'abord, oui. mon idée, c'était de tout faire oui. le roman vu par les yeux de Perceval. Oui. Et après, j'ai
alors
trouvé
là,
que c'était
un
peu trop,
aussi,
c'était un peu trop étriqué, voilà. qu'il fallait que chacun parle. Alors, j'ai distribué les rôles. Mais Perceval, c'est l'enfant. C'est l'enfant... qui est enchaîné d'une certaine façon, qui est enchaîné à son milieu, qui est enchaîné à des choses qu'il ne comprend absolument pas, à des lois qu'il ne comprend absolument pas, à des lois de morale, à des lois d'autorité, il ne comprend, ça lui échappe complètement.
Oui, en réalité, il y a la présence de l'innocence en lui, à l'état naturel,
à l'état
mais
sauvage,
il n'a pas
oui.
la possibilité, si vous voulez... de les formuler, puisque même son langage oui. est limité. Et ce qui est très bien rendu dans le livre, c'est que justement cette limitation de langage, puisque vous l'avez fait parler le mieux possible, mais par des phrases un peu tronquées, juxtaposées, oui. eh bien cette limitation de langage rend compte d'une limitation de la compréhension des lois de la société, en quelque sorte. Et Perceval, voix de l'innocence, représente la voix de la vérité aussi. On aurait envie de dire à tous ces gens, débarrassez-vous du langage, mais de votre langage, de votre discours intérieur, débarrassez-vous de ces prétendues lois et vivez en heureux sur cette grève, au bord de cette mer, en proie au vent, en proie à la mer, en proie aux cris des oiseaux, des fous de Bassan.
Mais en fait, la voix de Perceval, c'est le cri, c'est la voix la plus rudimentaire qui soit, c'est le cri de l'innocent.
À la vitrine du livre.